Bienvenue sur les ondes de Boulevard 101, l'émission d'En Jase. Il est présentement midi, une minute. J'espère que vous avez attaché vos patins serrés parce qu'on part pour une balade de deux heures d'actualité à fond de terrain, les amis. Je vous résume ça très rapidement. Midi 25, le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, va être avec nous pour parler de ce renforcement sur les règles de... Je parlerai de déontologie pour les juges. On leur dit, tu fais les mauvaises affaires, pas vrai que je vais juste te donner une petite tape sur les doigts. On parlait constitution aussi, parce qu'on se demande si ça vaut encore la peine de parler constitution à l'approche de ces élections-là. Midi 40, Sylvain Junot, le maire de Saint-Augustin-de-Desmaures, en guerre ouverte avec Bruno Marchand, même s'il ne l'avoue pas, a envoyé une autre lettre aux médias aujourd'hui. Il compare le projet de tramway au projet Saclic de la SAC. On va l'avoir avec nous. Ça va être très intéressant de l'écouter. J'ai parlé avec Émilie Pelletier en direct de l'Alberta avec le maire Marchand. J'ai des extraits à vous faire entendre. Citoyens, rassurez-vous, on ne parle pas encore de taxer vos poubelles. Le maire a dit « Je le ferai pas ».
Pas encore.
C'est pour ça que je dis pas encore. On en parle tout à l'heure. On va également avoir un commerçant du boulevard René-Lévesque où les travaux sont censés commencer ce samedi, qui va venir nous parler aux alentours de 13h05 parce qu'il ne comprend pas. Sa rue ne sera pas barrée, mais les autobus ne passeront pas. Donc, il se pose des questions. Puis, il va nous parler aussi du processus de rencontre avec les commerçants où c'est plus voici ce qu'on va faire que qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour t'aider. Donc, il va nous parler de ceci. Et on va terminer l'émission avec la chronique de Lambert de Rainville. Donc, c'est le line-up. Évidemment, on commence avec le caucus. Alors, c'est l'alignement de départ au niveau de Boulevard 101 à l'émission On en jase. On va vous informer de façon la plus optimale qu'on pense le faire pour que, justement, vous sachiez tout ce qui se passe. Et évidemment, on va parler du budget avec Antonine Iacarini et Lambert Drainville. Mesdames, comment allez-vous?
Ça va bien.
Excellent. Vous êtes prêtes? Vous avez attaché votre ceinture?
Ah, on l'a attaché depuis notre réveil, je pense.
Oh, magnifique.
Oui. C'est une grosse journée, là.
Oh, oui, cool. Oui. Ça en est une sincère.
Ben oui, journée sincère. De budget provincial. Éric Girard qui a mis les attentes très, 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 très basses. J'ai assez hâte qu'on entende que c'est un déficit de 9 milliards et qu'on est donc bien bon.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu une opération de communication pré-budget, mais le premier ministre les a remontés en disant qu'il y aurait des bonnes nouvelles. Fait que,
c'est ça.
On veut des bonnes nouvelles.
En plein ça, à voir. Mais avant de parler de tout ça dans le caucus avec Antonine Iacarini, Pascal CV, qu'est-ce qu'il faut savoir dans l'actualité?
Ben, nouveau projet de loi déposé aujourd'hui. Le ministre de la Justice veut punir les juges fautifs. Tu as parlé de ça très rapidement parce qu'on aura des invités là-dessus aujourd'hui. Mais selon le bureau d'enquête, Simon Jolin Barrette veut répondre à une demande, pas de son cru, mais qui avait été faite en 2024 par le Conseil de la magistrature. Donc, donner plus d'outils punitifs pour sévir à la hauteur de la gravité des gestes posés. Nul n'est au-dessus de la loi. Et Québec veut s'inspirer de l'Ontario parce qu'actuellement, il y a seulement deux conséquences qui sont possibles ici au Québec. C'est pas assez. La réprimande, un genre de blâme public, et la destitution. En Ontario, il y a plusieurs paliers. Et, comme tu vois, il y a un fossé qui sépare nos deux sanctions possibles. On va très vite sur le budget fédéral. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est sobre et ciblé. On a une instabilité économique. On en est conscient. C'est le dernier budget Girard qui sera présenté à Québec et dont Antonine va nous parler dans quelques instants. Il s'est passé quelque chose d'assez étrange dans le coin de la Grande Allée aujourd'hui. Il y a une femme qui a été retrouvée inconsciente et le mystère plane encore. Donc, sur une rue extrêmement huppée, là, on est dans le quartier Montcalm, sur l'avenue de Londres, près de la Grande Allée, à 6h50. Femme de 42 ans, et ça a changé parce qu'on disait dans la trentaine au moment où la nouvelle était sortie, mais qui a été retrouvée inconsciente à l'extérieur d'un domicile par un citoyen. Immédiatement, il appelle les services d'urgence. On l'a transporté à l'hôpital. On craint pour sa vie. Scène érigée, policiers qui sont sur place depuis ce matin. C'est un secteur qui est très tranquille. La maison n'était pas connue des policiers, donc l'adresse n'était pas fichée. Et on n'a pas d'autres informations. Les recherches, c'est auprès des voisins. Avec les caméras de sécurité, tout est épluché aujourd'hui. On veut comprendre ce qui s'est passé. Doug Ford a levé le ton. Arrêtez d'avoir des quotas de vente de véhicules électriques au Québec. Il a demandé au gouvernement du Québec, pour le bien de l'industrie automobile, de cesser ces dits quotas. Et Donald Trump parle encore de ses alliés, qu'il met entre guillemets, qu'il juge non réactifs, et il menace d'un désengagement américain sur le détroit d'Ormuz.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iacarini vous les sert clair, net et précis dans Le Caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le Caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le caucus avec Antonine Iaccarini du lundi au jeudi de midi à 12h30. Comme on vient de le dire, ça va être disponible sur la page YouTube de Boulevard. D'ailleurs, abonnez-vous 418-971-1021 pour communiquer avec nous. C'est toujours intéressant de vous lire pendant le caucus d'Antonine Iaccarini. Et si jamais vous quittez votre voiture, vous dites « Oh mon Dieu, comment je pourrais écouter Boulevard et le caucus? » Bien, l'application Boulevard 102.1 sur App Store, Google Play Store, boulevard.fm, c'est notre web radio, et twitch.tv/BLVD/FM. Antonine Iaccarini, tout va bien?
Tout va bien, c'est jour de budget.
Es-tu excité?
Bien, il y a toujours un petit peu de... J'ai envie de dire de l'électricité dans l'air, mais tu sais, il faut dire que moi, pas mal de mes amis, mon conjoint, plein de monde que je connais sont tous sur la colonne parlementaire aujourd'hui. Je suis avec vous, là, j'ai vraiment plus de chance qu'eux, évidemment.
Évidemment.
Mais c'est toujours, il y a une certaine effervescence le jour du budget. Et après ça, quand le budget sort vers 16h, quand le ministre des Finances, le huis clos est levé et qu'il commence son discours, et là, c'est... une chute Montmorency ou même une chute Niagara de nouvelles, de chiffres, de toutes sortes d'affaires en même temps.
Puis ouais, là, ça sort au compte-gouttes dans les médias. Tac, tac,
parce que là, ils sont dans une pièce, ils n'ont pas le droit à leur cellulaire, ils n'ont pas le droit de parler à qui que ce soit à l'extérieur de la pièce. Ils évaluent les 600 pages du projet, en fait, du budget de Girard, au moment où l'on se parle, puis à 16h, c'est les valves sont ouvertes.
Les valves sont ouvertes, puis les journalistes sortent leurs articles, leurs reportages. Ils ont pu le préparer à l'intérieur du huis clos. Les journalistes télé-radio ont ramassé des clips. Il y a eu des entrevues qui ont été faites dans le huis clos. Et les groupes, donc syndicats, patronats, groupes environnementaux, etc., etc., sont aussi dans le huis clos. Et eux vont sortir leur communiqué de presse, leur réaction. Ils vont avoir fait aussi des entrevues dans le huis clos. Donc, tout sort en même temps à partir de 16h, quand l'embargo est levé. Puis là, c'est la surabondance. Puis là, nous, on essaie de faire le tri sur ce qui est important, qu'est-ce qui est vraiment marquant, qu'est-ce qui touche les gens aussi. Parce qu'un budget, ça touche chacun d'entre nous. Là.
C'est l'8e budget, Girard. Enfin, le dernier, je te dirais, parce qu'on est dans le trou de 12 milliards. Ça a sûrement été notre pire ministre des Finances de l'histoire.
Oui, la vie est un peu injuste avec les ministres des Finances, parce qu'on va se rappeler de certaines choses, notamment les déficits. Mais les déficits sont liés aussi à des contextes qui des fois, ne sont pas nécessairement là, sous le contrôle d'un ministre des Finances. Je vais le défendre un peu.
On a le droit de penser différemment.
Le ministre Girard. si, par exemple, le ministre Girard avait fait seulement un mandat et que ça avait été de 2018 à 2022, on aurait dit, mon Dieu, c'est extraordinaire, quel ministre des Finances, parce qu'il est arrivé en place puis il y avait des surplus qui avaient été cumulés par les libéraux qui, eux, avaient posé des gestes difficiles pour justement aller chercher ces surplus-là. Et M. Girard, lui, s'est retrouvé avec une grosse manne d'argent.
Il était après l'austérité de Philippe Couillard.
Puis là, il pouvait donner des petits cadeaux.
Il pouvait donner des cadeaux.
Mais il en a donné trop.
Il a baissé des impôts. Il a baissé des
tarifs. Il a envoyé des chèques.
Il a baissé toutes sortes de frais qu'on avait à payer.
Ouais, les frais du permis de conduire. Ça, c'est correct, ça touche aux poches du citoyen. Mais Caroline Debine, pourquoi il y a 12 000 fonctionnaires de plus à l'heure actuelle?
Oui, je veux juste terminer ce que je disais. Dans le fond, c'est que des fois, on profite de ce qui a été fait avant nous. Et là, il faut prendre le bilan d'un ministre et penser avec quoi, avec quel contexte il a dû conjuguer. Donc, ce que je voulais dire, c'est que dans le premier mandat, ça a été les surplus et la pandémie. Et là, on aurait dit, mon Dieu, quel ministre extraordinaire, parce que... Bon. Et là, il y a eu le deuxième mandat, le post-pandémie, c'était un petit peu moins drôle. Hein? Dans les finances publiques, d'à peu près toutes les juridictions dans le monde se sont retrouvées dans une situation très, très difficile d'énormes dépenses et de l'inflation. Donc, on a dû gérer cette inflation-là. Et là, les décisions plus difficiles sont arrivées et les déficits ont commencé. Est-ce qu'évidemment, il y a des choix de la CAQ qui ont été faits qui explique certainement, là, je ne veux pas dire qu'ils ont tout fait correctement, mais il y a quand même un contexte à prendre en considération. Puis je pense que des fois, quand ça vient juste d'arriver, on n'a pas le recul nécessaire, mais avec le recul, moi, il y a comme quatre temps dans le mandat d'Éric Girard. Donc, le premier, c'est les surplus. Donc là, ça va bien, on baisse les frais de stationnement, on baisse les factures, on coupe les taxes scolaires.
Les surplus qui n'étaient pas attribuables à son travail.
Absolument pas, là. C'est les libéraux qui ont fait dans l'austérité de Philippe Couillard. Deuxième temps, c'est la pandémie. Et là, on sort, en fait, c'est les priorités, c'est la pandémie. Puis là, on sort le chéquier, puis on décide beaucoup par décret. Les oppositions ne sont pas écoutées. Les médias sont concentrés sur donner de l'information sur la pandémie aux citoyens. Donc, ça a été un moment bien bizarre
tout ça. Mais là vient ma critique. Ce qui était temporaire pour la pandémie est devenu permanent. Ce qui était de l'austérité chez les libéraux, on a dit qu'on a coupé dans les services, on a rajouté dans les services, mais les citoyens n'ont pas de meilleurs services.
Quand tu dis que quelque chose était supposé être temporaire et qui est permanent, est-ce qu'on a un exemple concret?
Bien, je vais te donner la fonction publique. On a augmenté la fonction publique parce qu'on était en crise pandémique. Puis c'est bien correct, là. Il fallait gérer des subventions aux entreprises, des subventions à des employés qui perdaient leur emploi, etc. Mais après ça, la fonction publique, elle ne s'est pas dégraissée.
C'est toujours plus dur d'enlever des postes que d'en rajouter. C'est facile en rajouter. Puis d'ailleurs, les gouvernements devraient se garder une gêne là-dessus. Troisième temps, bien là, c'est vraiment la période de l'inflation et de post-pandémie. Et honnêtement, peu importe le gouvernement en place, tout le monde a fait face à peu près aux mêmes défis. Mais là, ce qu'on peut reprocher au ministre Girard, c'est de ne pas avoir été assez fourmi. On a été trop cigales. Quand on avait des surplus, on s'est dit « Wouhou! » Puis là, on a eu envie de faire du bien aux gens. Là. Puis là, c'était toutes des choses, quand tu les revisites, tu te dis « Ah, ben oui. » Puis ça avait l'air nécessaire. Et aussi, quand tu as un caucus de députés qui dit « Moi, j'ai besoin d'une école dans mon comté. Moi, j'ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin d'un hôpital. Moi, j'ai besoin... » Et que tu as été dans l'opposition pendant plusieurs années, la CAQ, c'était le cas, il y a beaucoup de promesses qui avaient été faites.
En effet, ça, tu as raison, tu frappes un excellent point.
Donc, on a dépensé. Et quand la brise fut venue, la cigale se retrouva fort dépourvue.
En effet,
et cogna chez son ami la fourmi qui lui dit « Qu'est-ce que vous avez fait pendant l'été,
c'est
ma chère cigale? »
Parce que là, il n'y en a plus de réserve. En effet.
Plus de réserve. Donc là, on se retrouve dans une situation de déficit. Et il faut se rappeler la CAQ automne 2023, là. Quelle horreur! Une séquence d'événements épouvantables pour la CAQ. Là, on parle de l'élection partielle dans Jean Talon. Là, les sondages, ça se met à baisser. C'est difficile. On recule sur le troisième lien. Et là, Éric Girard fait cette... On est en négociation aussi avec les profs. Hein. Il y a des grèves.
Oui,
c'est tough, là.
Pas juste avec les profs, là, avec la fonction publique au complète. Là.
Et les écoles sont fermées.
Puis on a eu la brillante idée de se donner une augmentation salariale de 30 %. Donc, on ne peut pas vraiment fermer le robinet.
Ça aussi, quelle erreur.
On a donné aux Kings aussi.
Et voilà.
C'est anecdotique, les Kings, pour moi, parce que c'est un petit montant.
Mais c'est pas anecdotique pour le bilan d'Éric Girard.
T'as entièrement raison.
Ça a beaucoup terni son image.
Oui.
Donc, c'était quelques millions. Quelques millions, là, pour nous, c'est beaucoup d'argent, mais c'est vrai que dans le budget du Québec, c'est pas grand-chose. Mais ça a contribué, surtout que ça arrivait pendant un moment où on disait aux profs, aux infirmières, à tout le monde, on n'a pas d'argent.
On venait de dire aux banques alimentaires, on n'a pas 30 millions pour vous autres, mais on avait 7 millions pour les Kings.
Oui, puis finalement, ils l'ont donné, l'argent aux banques alimentaires. Mais
ben là, j'espère donc. Mais les Kings sont même allés faire du bénévolat.
Oui, les Kings sont allés faire du bénévolat en plus. Mais ça a été vraiment un moment qui a terni l'image, je pense, d'Éric Girard, qui a été une grossière erreur de la CAQ, là, la venue des Kings. Puis je sais qu'il y a des gens qui sont allés, puis c'était bien le fun, mais politiquement, c'était épouvantable.
Oui.
Et là, le quatrième temps, c'est les tarifs. C'est le retour de M. Trump. Et là, on doit encore faire des programmes d'aide, sortir de l'argent. L'économie est mise à mal. Donc, c'est sûr, c'est facile quand on revisite le passé, mais effectivement, les surplus, là, avec le recul, là, on aurait dû faire plus attention.
On a dépensé trop les surplus et je me trompe-tu si je dis qu'on n'a pas assez investi dans notre économie, nos PME? On a tenté de frapper le fameux coup de circuit à grands coups de nouveautés technologiques. Puis là, avec la guerre tarifaire, on est prêt à aider ces PME-là qu'on aurait dû aider avant que ça arrive.
Il y a eu beaucoup d'aide aux entreprises, puis notamment pendant la pandémie. Moi, je ne suis pas prête à jeter la pierre, mais il y a des dossiers qui ont frappé l'imaginaire. On pense évidemment à Nordvolt, dans lequel on a misé énormément et qui finalement est un échec. Ça a été très symbolique. Puis là, tu vois maintenant, au contraire, là, on voit les deux candidats à la chefferie de la CAQ sont plus en mode qu'on doit moins intervenir dans l'économie. Donc, je ne serais pas prête à dire qu'ils n'ont pas aidé les PME, mais c'est l'image de cette entreprise étrangère à qui on a vraiment là, on a ouvert le chèque, on a déployé l'argent et qui est un échec qui vient un peu ternir
ça vient ternir aussi.
Les actions
un peu une image comme les Kings, dans le fond.
Ben, c'est ça. Puis,
mais encore en plus grande importance.
Oui, puis ça a une importance. Il faut quand même le dire. Là, quand on va perdre des millions dans quelque chose qui n'est pas une priorité, puis qu'on se retourne de bord, puis qu'on dit à des gens qui en ont vraiment besoin, ben désolé, on n'a plus d'argent. Ouais. C'est sûr que Nordvolt puis les Kings, là, on l'a à travers la gorge. Et c'est tout à fait normal.
Maintenant, rapidement, je peux bien croire qu'on me dit j'ai réservé des réserves pour Christine Fréchette ou Bernard Drainville. Mais dans les faits, il devrait avoir de budget aujourd'hui.
C'est tellement bizarre comme situation.
François Legault laisse une dernière empreinte sur le Québec. Avec tout le respect que j'ai pour M. Legault, on n'a pas vraiment besoin de sa dernière empreinte.
Bon, M. Legault et M. Girard, j'ai l'impression, avaient une préoccupation pour démontrer qu'on continuait quand même à gérer le Québec malgré la course à la chefferie. Moi, je pense que la course à la chefferie aurait peut-être dû commencer avant, mais bon, il ne faut pas le passer. Rappelez-vous aussi qu'on a subi une décote de Moody's. Et une décote, ça peut sembler très théorique, mais ça a un impact sur beaucoup, beaucoup de choses, puis notamment ce qu'on paye en intérêt sur la dette et quand on emprunte de l'argent. Parce que la CAQ a beaucoup investi en infrastructure. Puis ça, c'est un autre élément important du bilan d'Éric Girard, c'est que le PQI, le plan des infrastructures, fait en sorte qu'on a beaucoup plus d'argent disponible pour des projets d'infrastructures. Il y a eu un sous-financement dans les infrastructures pendant des années, notamment dans le maintien d'infrastructures. On peut penser aussi dans le réseau de l'éducation, il y a eu un vaste chantier de réparation des écoles qui était dans un état lamentable. Ça, c'est quand même un accomplissement du gouvernement de la CAQ. Mais Moody's considérait que ces dépenses-là, en fait, venaient déséquilibrer un peu la capacité financière du Québec et a décoté. Donc, je reviens au budget. Je pense que M. Legault et M. Girard voulaient montrer que le Québec continuait d'être géré. Mais là, on met de l'argent de côté, on dit on va avoir une mise à jour économique. Donc, puis j'ai un autre élément que je veux vous amener qui est plus technique. Après le budget, il y a les crédits. Okay? Les experts financiers vont vous dire que tout ce qui est le plus intéressant se trouve dans les crédits quand on reçoit le budget. À la suite du budget, on fait l'étude des crédits de l'année passée, donc du dernier exercice budgétaire. C'est un exercice de reddition de compte où les oppositions vont poser des questions sur « vous avez dépensé tant dans telle affaire, est-ce que ça a donné des résultats, pourquoi finalement on n'a pas dépensé cette enveloppe-là, etc. »
C'est lors des crédits budgétaires que Jonathan Julien avait dit « il y a des milliers de projets pour finalement avoir une feuille 8,5 par 14. »
Oui, c'est toujours un moment pour le gouvernement où les oppositions sortent toutes sortes de choses, puis on reçoit des tonnes de cahiers avec plein de papiers, puis là les oppositions fouillent là-dedans, les journalistes fouillent là-dedans pour trouver de la dirt sur le gouvernement, et on en trouve toujours. Et là, d'habitude, c'est que tu déposes le budget et il faut au moins que tu laisses passer 2 semaines avant de commencer l'étude des crédits. Mais là, il va y avoir la fin de la course à la chefferie, il va y avoir prorogation, il va y avoir un nouveau conseil des ministres, il va y avoir une mise à jour économique
en mai. Qui va répondre de ça?
Ça va être quand l'étude des crédits?
Ça va être?
Puis les nouveaux ministres vont arriver en poste. Puis là, t'es pogné pour défendre les crédits de ton ancien collègue. Le timing, la séquence temporelle là, est vraiment particulière. Et je n'ai aucune idée comment ça va fonctionner pour l'étude des crédits.
C'est quasiment bon pour la CAQ? Parce qu'on ne peut pas tant répondre. Les têtes de Turc vont changer.
Ouais, d'un autre côté, tu ne contrôles pas le message.
Ça fait un peu désordre, honnêtement. Puis oui, effectivement, t'arrives, tous tes nouveaux ministres, tu viens d'arriver, puis on dit comment ça se fait qu'on n'a pas... je sais pas, je viens d'arriver. Mais tu peux pas vraiment faire ça. Puis les fonctionnaires sont là, hein. Donc, même si le ministre a changé, il y a le sous-ministre à côté qui, lui, va dire la vérité. Puis là, honnêtement, là, c'est bizarre. Donc, bref, tout ça pour dire qu'on écoute le budget d'Éric Girard aujourd'hui, qui bat d'ailleurs un record de longévité de ministre des Finances, hein, rejoignant Gérard Depelletier et Jacques Parizeau comme les ministres des Finances les plus longs, les plus longtemps. Je sais
on
pas
est
choyés. T'as l'air tellement content.
Je suis full enthousiaste.
Je pense que tu incarnes bien, je trouve, le cycle politique. À un moment donné, les gens sont comme plus capables.
Non, exactement. Plus capables d'entendre Éric Girard.
C'est ça.
Me raconter qu'il fait de la bonne job.
Ça te tente plus.
Ça me tente plus.
Je comprends.
Je suis directement là. Bon, directement dans le caucus.
Bonne chance pour passer à travers cette journée.
C'est fou comment t'as décroché complètement, toi.
Directement dans le caucus avec Antonine Iacarini, du lundi au jeudi de midi à 12h30. C'est rare, je suis comme ça. Là, je me recrains parce que ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. C'est les 5000 places en garderie additionnelles qui ont été annoncées par Éric Girard hier. Et j'explique pourquoi je trouve que c'est une bonne nouvelle. On ne construit pas de nouvelles bâtisses. On ne réinvente pas à roue. On pogne 5000 places qui, présentement, ne sont pas subventionnées. Puis on dit aux gens, à ces gens-là qui font de bonnes jobs. « Hey, sais-tu quoi? On te subventionne maintenant. Les parents, ça va coûter moins cher. » Puis all the way, on est parti. Je trouve ça génial comme concept.
On convertit des places. C'est sûr que ça ne peut pas juste être du convertissement. Est-ce que c'est un mot qui existe?
Je sais pas, mais je te laisse.
Conversion. On peut pas faire juste de la conversion parce qu'il y a quand même 40 000 enfants en attente d'une place en garderie. Puis, tu sais, éventuellement, ça prend des nouvelles places aussi. Il faut additionner. On peut pas juste convertir. Mais oui, c'est une bonne nouvelle. Puis, ça m'a donné envie de faire une espèce de bilan du gouvernement de la CAQ en matière de garderie. Parce que c'est un dossier qui n'est pas facile, les services de garde. Depuis l'invention des CPE au Québec par Mme Marois et Mme Léger il y a quelques années, on n'a jamais réussi à compléter vraiment le réseau. Hein.
En effet.
Tu sais, au Québec, là, tu veux une place à l'école, tu n'as pas besoin d'être sous des listes d'attente puis à commencer à faire des tours de passe-passe pour trouver une place à l'école.
Puis c'est pas comme si le taux de natalité au Québec est en explosion.
Et en effet. En effet, excellent point.
Je fais juste réfléchir. Là.
On jase.
Ça tombe bien si on en jase.
On en jase. Donc, effectivement, c'est un peu un échec collectif dans le sens que c'est une belle réussite, là, le réseau des CPE. Puis au Québec, on est vraiment chanceux parce que si vous comparez avec ailleurs, là, je peux vous dire qu'aux États-Unis, les femmes, il n'y en a pas de place à garderie à 8 $ par jour. Là. Cela dit, ça aurait été bien de compléter ce réseau. Parce que, tu sais, d'avoir une Cadillac, mais que tu n'as pas tout le monde qui peut embarquer dedans, on se dit, bon, ben, est-ce qu'on pourrait prendre des Yaris puis avoir toute une place dans une Yaris? Ça serait peut-être mieux que d'être dans la loterie, d'essayer d'avoir une place en CPE. Et c'est mal fait, la vie, parce que je t'explique le cycle de la création des places en garderie. Le PQ créait des places, investissait pour créer des places. Puis là, après ça, les libéraux désinvestissaient, mais annonçaient les places que le PQ avait démarrées pendant qu'il était au pouvoir.
Ouais.
Après ça, le PQ créait des places, investissait. Puis là, après ça, les libéraux désinvestissaient puis annonçaient les places du PQ. Donc, c'est dur de faire des bilans justes d'un gouvernement en matière
effet,
de création.
En effet, je suis d'accord.
De puis des fois, on est mêlé un peu dans les chiffres, puis c'est très long créer des places en garderie au Québec. La CAQ a réussi quand même à créer pas mal de places. Là. On parle de 34 000 places qui ont été créées depuis leur arrivée au pouvoir.
Très bon bilan.
C'est un bon bilan, mais c'est sûr que quand tu attends ta place en garderie et que tu n'en as pas, tu ne trouves pas que c'est un bon bilan, puis on le comprend.
Hey, c'est rare que je vais dire ça, mais là, il ne faut pas les juger pour ce que les autres ont fait avant.
Bon, et c'est là que j'arrive sur le bilan désastreux du Parti libéral du Québec en matière de garderie. Là. Puis je ne vais pas y aller de main morte. Le Parti libéral a toujours davantage misé sur le privé et même a eu des gros enjeux d'éthique et de financement politique. Hein. Les permis de garderie, là, ça a été un enjeu éthique, on se rappelle, de Tony Tomassi notamment. Donc, on favorisait des places au privé parce que c'était comme un cadeau. Là. Tu sais, tu ouvres-toi une garderie, on va te subventionner, etc.
C'est ça.
Alors que le PQ a toujours plus misé sur les CPE. Puis,
en installation.
En installation, mais cela dit, tout le monde a sa place dans ce réseau de garderies, puis il y a de la place aussi pour des milieux familiaux puis des garderies privées subventionnées. Mais le Parti libéral n'a pas investi énormément dans ce réseau-là. Mm-hmm. Et même, il n'y avait pas des ministres de la famille qui étaient à 100% de leur tâche. Hein. Souvent, le ministre de la famille au Parti libéral, il faisait d'autres choses en même temps, puis c'était très secondaire pour eux. Donc, la CAQ a un peu brisé ce cycle-là. Il a quand même beaucoup investi, mais on retient souvent la liste d'attente. C'est comme la manière qu'on a de juger si on a livré la marchandise. Et malheureusement, ben elle demeure quand même assez grosse.
En effet. On passe immédiatement avec le ministre de la Justice au niveau du gouvernement provincial, M. Simon Jolin Barrette. M. Jolin Barrette, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui à l'émission L'Enjase.
Bien, bonjour, ça fait plaisir.
M. Jolin Barrette, êtes-vous en guerre ouverte avec les juges?
Ah non, pas du tout. Aujourd'hui, on a déposé un projet de loi qui répond aux demandes du Conseil de la magistrature. Donc, vous avez probablement vu le juge en chef de la Cour du Québec, qui est également président du Conseil de la magistrature, nous avait déposé un rapport nous demandant de leur donner davantage de pouvoir en matière de déontologie, donc pour faire en sorte qu'il y ait davantage de possibilités de sanctions en fonction de la gravité de l'infraction qui est commise, et c'est ce qu'on a livré aujourd'hui.
Pourquoi faut-il gérer les juges? Je me sens, moi, là, tu sais, j'y regarde, puis ils sont au-dessus, là, à l'organigramme le plus haut au niveau de la justice. Je comprends pas qu'il y ait des manquements, autant de manquements au niveau des juges.
Bien, vous savez, vous avez raison de le dire, c'est une fonction extrêmement importante, être juge de la Cour du Québec ou être juge municipal, donc les deux types de juges que le gouvernement du Québec nomme. Et on occupe des fonctions importantes et on rend des décisions importantes sur la vie des gens. Donc, c'est sûr qu'on doit avoir un comportement exemplaire lorsqu'on est juge. Il peut y arriver certaines situations où il y a des écarts de conduite, puis le code de déontologie des juges est là. Et le Conseil de la magistrature procédure est là, est en place pour faire en sorte d'assurer la déontologie judiciaire. Donc, les citoyens peuvent déposer une plainte et la plainte va être traitée par le Conseil de la magistrature. Puis, il faut comprendre que c'est un processus qui est indépendant du gouvernement. C'est un processus où la justice est rendue par 16 personnes qui écoutent la plainte, qui font l'enquête et par la suite imposent une sanction.
Vous avez parlé de manquement, justement. On parle de juges qui dérapent là, dans certains articles de journaux. Est-ce qu'on peut, pour le bénéfice de nos auditeurs, donner des exemples? À quoi ça répond comme problématique, ces nouveaux pouvoirs-là? Et qu'est-ce qu'on entend par un juge qui dérape?
Bien, il y a tout type de comportement, il y a tout type de plainte que les citoyens peuvent faire par rapport à la conduite du juge. Donc, vous avez vu dans les médias, il y a eu plusieurs cas d'exemple relativement au comportement, à des agissements qui n'étaient pas acceptables. Et par rapport aux nouveaux pouvoirs qu'on donne, ben dans le cadre du Conseil de la magistrature, c'est notamment de suspendre le juge pour une période allant jusqu'à 6 mois, de faire en sorte d'ordonner de suivre une formation ou une thérapie, de cesser de poser un acte dérogatoire ou de cesser d'exercer une fonction incompatible avec sa fonction, aussi de l'affecter à d'autres fonctions le temps que les mesures soient mises en place, également qu'il présente des excuses, qu'également que le juge mette en place des façons de faire différentes pour corriger son comportement. Alors, on laisse vraiment la latitude au Conseil de la magistrature d'imposer des nouvelles sanctions. Actuellement, c'était uniquement la réprimande ou la destitution. Donc, il était pris avec tout ça, puis la destitution. Bien, ça fait, on n'a jamais eu de recommandation de décision de la part du Conseil de la magistrature. Donc, on répond aux besoins du Conseil de la magistrature d'avoir plus de latitude pour imposer la bonne sanction en fonction du comportement délictuel.
Est-ce que vous recevez des mécontentements des gens, bien, dans ce cas-ci des juges, qui n'en ont rien à faire d'avoir un palier de sanction dans leur code de déontologie avec le Conseil de la magistrature?
Non, je pense que les juges sont très ouverts relativement à que la loi soit réformée de la façon dont on le fait, parce que vous savez, tout le monde travaille pour la confiance du public. Donc, dans toutes les organisations, il peut y arriver qu'il y ait certains cas qui s'éloignent de la norme et du comportement qui doit être exemplaire. Vous savez, dans n'importe quelle organisation, ça peut arriver. Cependant, il faut viser le moins possible et surtout, il faut que les juges lavent plus blanc que blanc par rapport à leur comportement. Donc, si jamais il y a un écart, si jamais il y a un comportement qui est contraire au code de déontologie, bien, il faut qu'il puisse être sanctionné adéquatement en fonction de la gravité du geste. Puis c'est ça le pouvoir qu'on donne au Conseil de la magistrature parce que moi, comme ministre de la Justice, je veux que les gens aient confiance dans le système de justice, aient confiance dans les juges et la majorité se comporte adéquatement. Ils font un bon travail, travaillent fort également, mais il peut y arriver certaines situations que certaines personnes agissent d'une façon qui n'est pas acceptable et là, le Conseil de la magistrature est là pour les sanctionner.
Petite parenthèse sur ce que vous venez de dire. Est-ce que ça ne peut pas jouer sur la perception, par contre? Parce que si on n'avait pas ces modalités-là de sanctions auparavant, c'est-tu un choix de se dire « faut pas mal faire paraître nos juges » parce qu'après tout, c'est eux qui cognent avec leur marteau sur la table à la fin pour dire coupable ou non coupable à d'autres individus de la société?
Bien, comme je vous dis, il faut travailler toujours à rendre la confiance du public dans le système de justice le plus fort possible. Alors, partant de là, manifestement, il y avait un enjeu avec le régime de sanctions. Alors, on vient le modifier justement pour que les gens se disent, bien, si je dépose une plainte et que le Conseil de la magistrature reconnaît qu'il y a eu une faute, bien, que la sanction soit appropriée en fonction de la gravité de la faute. Puis, vous savez, je pense que dans notre système de justice, lorsqu'on se trouve avec quelqu'un qui est nommé à la fonction de juge, bien entendu, son comportement, la société s'attend à ce que son comportement soit exemplaire. Puis le Code de déontologie et le Conseil de la magistrature sont là pour s'assurer que ça soit le cas.
Monsieur Jeanlin Barrette, je change de sujet. On a appris dans la presse ce matin que l'assassin de Chun Woo Kim, qui a été assassiné dans son dépanneur Xavier Gelati, le 4 août dernier, il y a un petit du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal qui avait sonné l'alarme que cet individu-là devrait être hospitalisé. Il entendait des voix. Il se prenait pour un tueur dans un jeu vidéo. Est-ce qu'on va augmenter justement la portée de P38, de la loi P38, pour permettre des hospitalisations forcées en plus grand nombre?
C'est un dossier sur lequel je travaille avec ma collègue à la santé, Mme Bélanger. Puis effectivement, on s'est engagé à revoir les dispositions de la loi, justement, pour faire en sorte que les personnes qui sont dans un état de santé mentale difficile puissent être prises en charge. Même chose également pour les familles. Les familles qui accompagnent les gens qui ont des problématiques de santé mentale, on en a tellement entendu d'histoires qu'il faut s'assurer que les critères soient modifiés. Alors, on y travaille et prochainement, vous pourrez voir le fruit de ce travail-là.
La course à la direction de la CAQ bat son plein. Là. Ça va se terminer dans quelques semaines. Il risque d'avoir, évidemment, des changements au Conseil des ministres. Est-ce que vous, votre préférence, ce serait de terminer le mandat dans ce poste de ministre de la Justice et de leader parlementaire?
Ben écoutez, moi, je vais servir ou le ou la nouvelle première ministre.
Mais votre préférence, là.
Oui, ben ça, c'est la cassette politique, là. On veut entendre une vraie réponse, là.
Ben écoutez, moi, j'ai toujours servi où M. Legault voulait que j'aille. Alors, je suis un fidèle soldat. Puis pour moi, les réformes que j'ai menées en matière de justice, elles sont importantes. Puis j'en ai d'autres à faire aussi d'ici la fin du mandat. Donc, aujourd'hui, on dépose un projet de loi. Bien entendu que je souhaiterais pouvoir la compléter.
OK, donc ça vous a servi de toujours aller là où M. Legault vous envoyait?
Ben écoutez, en matière de langue française, en matière de justice, en matière d'immigration, en matière d'accès à l'information, je pense avoir rempli les défis que M. Legault m'a confiés comme leader du gouvernement aussi. Mais comme je vous dis, moi je suis quelqu'un d'équipe et je vais servir où je vais pouvoir être le plus utile, où est-ce que le ou la prochaine première ministre va juger que je peux apporter le plus.
Simon-Jolin Barrette, ministre de la Justice à l'heure actuelle, est-ce que vous allez vous présenter aux prochaines élections?
Oui.
Oui, donc vous allez vous représenter dans votre circonscription et accompagner soit Christine Fréchette ou Bernard Drainville.
Effectivement.
Bien, félicitations de continuer votre travail politique et je vous souhaite une excellente fin de journée.
Bien, merci à vous deux. Bonne journée.
Merci. Au revoir. Simon-Jolin Barrette, ministre de la Justice, qui a décidé de serrer la vis sur nos juges qui n'ont pas une bonne déontologie. Donc, je pense que c'est une bonne affaire qu'il fait, le ministre Antonine.
Bien, l'objectif, c'est d'augmenter la confiance du public. Mais moi, c'est sûr que bien, le Québec a des leviers limités pour cet aspect-là parce que ce qu'on entend beaucoup dans la population, c'est l'incompréhension face aux peines qui sont données. Puis ça, c'est pas de juridiction québécoise, mm-hmm. C'est plus le code criminel,
les fameuses peines Netflix à la Justin Trudeau.
Exactement. Sauf que, bon, le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, travaille avec les leviers qui sont à sa disposition. Ça semble être une demande de la magistrature, donc c'est très bon. Puis je souligne en terminant que M. Jolin Barrette est vraiment un ministre qui a tendance à être devant la parade. C'est-à-dire, c'est très rare qu'un dossier devient vraiment en feu dans les médias, là, les oppositions demandent quelque chose, puis là, se retrouvent un peu des fois les ministres à faire du rétropédalage puis à répondre à une demande des médias puis des oppositions. Simon-Jolin Barrette, souvent, c'est le premier à apporter un enjeu avant même que ça devienne vraiment une tempête médiatique ou quelque chose. Puis il a été vraiment, tu sais, si on fait le bilan de tout ce qu'il a fait, un réformateur. Il a fait beaucoup, beaucoup de choses. Il y a une feuille de route avec des choses très concrètes
à
présenter.
C'était complexe, les dossiers. Ouais. Et moi, je l'ai agacé en fin d'entrevue en disant « ça vous a toujours servi de suivre François Legault, Antonine ». Est-ce qu'on peut voir cette tendance-là aussi chez ceux qui, bon, vont quitter le bateau parce que François Legault s'en va? C'est beaucoup de ceux qui disaient « oui, oui, merci, oui, on te suit ». En politique, c'est ça aussi. Il faut suivre la parade de l'équipe.
Bien, moi, je trouve pas que Simon-Jolin Barrette, c'est un suiveux de M. Legault du
okay.
tout. Au contraire,
Simon-Jolin
Barrette faisait des combats auprès du Conseil des ministres puis convainquait le premier ministre que son enjeu était une priorité. T'sais, c'est sûr que la langue française, ça frappe beaucoup. Puis c'était très dans l'ADN de la CAQ. Puis le premier ministre voulait qu'on insiste là-dessus. Mais Simon-Jolin Barrette apportait des dossiers qui, des fois... Tu sais, la justice, là, c'est pas dans les trois priorités des Québécois. Santé, éducation, économie, oui, là, puis se trouver une place en garderie, là, c'est pas mal ça. Là. Et lui arrivait avec des choses qui, des fois, ne semblaient pas une priorité et en faisait une priorité. J'ai toujours trouvé qu'il était hyper proactif. Et même, des fois, il y a des collègues, de ministres ou députés, qui trouvaient que il poussait fort pour ses affaires, puis tu sais, lui, il savait là, où est-ce qu'il voulait s'en aller, puis pas toujours à l'écoute des commentaires des collègues, etc.
C'était-tu le marois risqué de la CAQ?
Je dirais pas ça, mais je dirais que c'est quelqu'un de déterminé, qui sait où est-ce qu'il veut s'en aller, puis qu'il a réussi à se monter toute une feuille de route avec cette attitude-là.
En 30 secondes, Antonine, parce que demain, tu nous as booké une entrevue qui va être très intéressante aux alentours de 12h30 avec Yann Langlais, qui est directeur des communications de Santé Québec. Les médecins spécialistes à 500 000, peuvent-tu rentrer, s'il vous plaît, à l'hôpital, opérer le monde pour arrêter de se plaindre?
Ah, écoute, là, on est dans une nouvelle chicane entre Santé Québec et la FMSQ, la fédération qui représente les médecins spécialistes. Parce qu'on rappelle qu'il y a eu une entente avec les médecins omnipraticiens, qu'on est c'est en ça. Train d'inscrire plein de gens là, maintenant sur les listes de patients des médecins omnipraticiens. C'est pas parfait, mais il se passe quelque chose. Mais c'est toujours pas débloqué avec la FMSQ. Et là, Santé Québec a dévoilé qu'il y avait plein de rendez-vous qui avaient été enlevés puis que les médecins spécialistes ne voulaient plus se servir de la plateforme.
Apparemment que la plateforme ne sert à rien, mais il y a 20 % des rendez-vous qui se prennent avec cette plateforme-là. Mais moi, servir à rien, c'est 0 % Fait que là, ça veut dire qu'il y a 20 % des rendez-vous qui ne sont pas faits. Puis là, Santé Québec a calculé que c'était à peu près 600 rendez-vous qui n'ont pas été faits depuis le début de la semaine.
Tu sais, quand tu dis ça sert à rien, mais que toi, ton rendez-vous, c'était dans
la c'est parce que c'est scandaleux. Parce que quand tu vois un médecin spécialiste, parce que c'est un problème de santé plus grave que la normale.
Oui, puis on s'entend en ce moment, en plus, des listes d'attente très élevées, difficultés d'accès, ça va pas très bien. Et à travers toute cette chicane-là, bon, là, la FMSQ a décidé que la réponse à tout ça, c'était que Santé Québec disait n'importe quoi, faisait de la désinformation et a mis en demeure Santé Québec. Aïe, aïe. Tu sais, on est tous des patients, là, quelque part, là, dans notre vie, là. Tu dis, je me sens-tu oublié, moi, à travers ça, dans cette chicane-là?
Tu dis, toi. Tu sais, je compare avec les médecins omnipraticiens, OK, que j'ai critiqué aussi en ondes en disant, voyons, ils courent trop après leur chèque. Mm. Mais là, Pascal Renault, le président des médecins omnipraticiens de Québec, est venu s'asseoir et il a dit, savez-vous quoi? 630 000 qui sont sur la liste. Voici le résultat. Mm-hmm. Ben là, tu fais... Ouais, OK, c'est beau. Il y avait un enjeu patient pour de vrai.
Puis c'est ça qu'il défendait. En plein comme tu as dit, il était capable d'avoir des arguments francs, clairs, transparents. Ouais. Les gens étaient derrière eux. Puis en plus, c'est leur première ligne de front. Médecin de famille, c'est la première personne à qui tu parles, puis c'est la personne à qui tu parles
le plus
souvent.
Les gens ont une relation avec leur médecin.
Le spécialiste, puis là, c'est juste d'argent.
Mais là, imagine-toi les spécialistes. Imagine-toi, là, ma mère, ça y a pris un an et demi à se faire opérer pour un remplacement de hanche. Imagine-toi, elle était tombée pendant la grève des médecins spécialistes, puis floup. Elle n'a pas son rendez-vous lundi cette semaine.
Écoute, des histoires, là, j'en entends des gens qui attendent. C'est sûr qu'il faut être sensible aux arguments aussi des médecins spécialistes parce qu'on a des problèmes d'organisation très
grands. Ils ont complètement raison, mais pas à la personne qui attend depuis un an et demi à payer le prix pour le fait qu'ils trouvent que le gouvernement ne travaille pas assez bien et ils ont raison de trouver ça. Non, c'est pas l'individu, c'est pas aux citoyens à payer pour ça.
C'est sûr que les médecins spécialistes demeurent des gens privilégiés de notre société,
ben oui.
Qui ont signé un serment envers les patientes. Et nos attentes sont élevées aussi. Il faut être rigoureux, il faut regarder aussi qu'est-ce qui leur appartient, qu'est-ce qui leur appartient pas. Le gouvernement n'est pas parfait, là. On s'entend dessus, là. Il y a la politique, ça a santé, là, puis il y a des choses qui doivent être faites. Mais honnêtement, quand j'ai vu la mise en demeure, je me suis dit, aïe, aïe, les patients encore, là, sont chez eux, puis ils se disent, battez-vous, puis moi, quand vous me le direz quand je serai une priorité, finalement.
Antonine, il y a un dossier passionnant dans la ville de Québec, c'est le tramway.
Ouais.
Il y a une chicane entre Sylvain Junot et
chicane.
Bruno Marchand. Ça brasse pas mal. Sylvain Junot a réécrit aux médias aujourd'hui. Tu restes avec nous pour parler avec le maire de Saint-Augustin de Demeure?
Oui, je reste avec vous.
Tu pensais qu'il allait pas répliquer, hein?
Il l'a répliqué.
Oui, hier, on a eu un petit débat. Je pense qu'il va répliquer. Il y a quelque chose, là. Ça pique au bon endroit.
Là
où ça fait mal.
Puis après ça, je vais vous faire entendre des extraits d'une entrevue que j'ai faite avec Émilie Pelletier concernant justement la mission de Bruno Marchand en Alberta. Je vais vous entendre là-dessus. Il y a des bons points que Bruno Marchand amène. Il y en a d'autres que je questionne vigoureusement. Donc, on parle de tout ça dans un instant à Boulevard 102, à l'émission d'Enjase.